Bravo, bravo, on peut l'applaudir si vous avez encore les mains disponibles. Merci beaucoup.
Il est 19h, bonsoir et bienvenue dans l'émission Droit Devant, émission proposée et préparée par les groupes angevins d'Amnesty International sur Radio G 101.5 FM un jeudi sur deux. Merci de nous retrouver pour cette demi-heure consacrée aux droits humains. Et pour animer cette émission, aujourd'hui, il y a Sophie et Aimé. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Ravie de vous retrouver.
Alors, cette émission, elle est un petit peu spéciale, puisqu'elle a été conçue autour des droits des femmes et des minorités de genre. Et nous accueillons d'ailleurs Manon et Camille, qui représentent l'association Solidarité Femmes 49. Merci beaucoup d'être là.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nous parlerons de l'actualité, bien sûr, et on écoutera deux chroniques, celle de l'antenne jeune d'Amnesty Angers ainsi que celle de Céline. On finira évidemment par l'agenda militant et culturel. Mais commençons tout d'abord par ton édito, Aimé. Tu vas nous parler de l'intégration de l'IVG dans la Constitution française et de son intérêt.
Alors j'évoquerai ce soir une étape nécessaire pour les personnes pouvant être enceintes, étape qui a marqué ce début d'année 2024 en France. Il s'agit bien évidemment de l'adoption par l'Assemblée nationale le 24 janvier dernier du projet de réforme constitutionnelle du gouvernement visant à inscrire la liberté garantie pour une femme d'avoir recours à l'IVG.
Alors en quoi cette adoption est-elle importante ?
L'inscription de l'IVG dans la Constitution est avant tout symbolique. L'Élysée a fait valoir que cet acte était extrêmement fort et qu'il avait énormément de valeur aussi dans le débat international. Plusieurs associations féministes saluent elles aussi ce symbole fort. Rappelez-vous, à l'occasion de la Journée internationale pour les droits des femmes, le 8 mars 2023, le président de la République s'était engagé à consacrer ce droit dans la Constitution. Une déclaration remarquée, alors que la Cour suprême des États-Unis décidait en 2022 d'annuler un arrêt historique garant dans tout le pays du droit à l'avortement des femmes et la liberté de celles-ci à disposer de leur corps.
Alors concrètement, qu'est-ce qui va changer si on inscrit le recours à l'IVG dans la Constitution ?
Au-delà du symbole, la France affirme sa volonté de ne pas remettre ce droit en question et complexifie la procédure pour y parvenir. Il faut faire un peu d'histoire pour comprendre le renforcement progressif de ce droit. En 1975, la loi Veil autorisait l'avortement de manière provisoire avant sa légalisation définitive en 1979. Par la suite, cette loi a été enrichie, notamment par la prise en charge intégrale de cet acte et par un allongement du délai légal passant à 14 semaines. La constitutionnalisation du recours à l'IVG est une étape supplémentaire pour limiter les risques d'y porter atteinte. Attention tout de même, nous ne sommes pas à l'abri d'une nouvelle révision constitutionnelle qui viendrait abroger cette disposition.
Je remarque que tu n'utilises pas le terme droit à l'IVG, mais recours à l'IVG.
Oui, c'est volontaire. Pour le moment, l'article 34 du projet de loi ne consacre pas le droit de recourir à l'IVG, mais précise que la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. C'est une formulation que nous regrettons à Amnesty International. Nous estimons que la consécration d'un droit à l'IVG est nécessaire pour toutes les personnes pouvant être enceintes.
Et au niveau international, est-ce qu'il y a d'autres États qui consacrent ce droit dans leur constitution ?
Non, ça mérite d'être souligné car si la France allait au bout de son processus de modification de la loi fondamentale, elle serait le premier pays au monde à inscrire l'IVG dans son arsenal constitutionnel.
Est-ce que tu peux nous parler de la situation des États dans lesquels ce droit est mis en péril ?
La Pologne dispose de l'une des lois les plus restrictives sur l'avortement à l'échelle de l'Europe. Mais elle n'est pas le seul mauvais élève. L'IVG est encore interdite dans près d'une vingtaine d'États tels que l'Égypte, le Sénégal ou encore Madagascar.
D'accord. Alors en France, on en est où dans la procédure d'adoption du texte ?
Le texte doit encore être examiné par le Sénat. Il sera ensuite entériné par le Parlement, réuni en congrès à Versailles le 5 mars prochain. Dans l'hypothèse où il serait adopté, nous veillerons à l'effectivité de ce droit et à la non-discrimination dans son accès.
Merci Aimé. Vous êtes toujours dans Droit Devant sur Radio G 101.5 FM et nous avons donc aujourd'hui le plaisir de recevoir Camille et Manon de l'association Solidarité Femmes 49. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter votre association ?
L'association Solidarité Femmes 49, c'est une association qui vient en aide aux femmes qui sont victimes de violences conjugales, que ce soit des femmes avec ou sans enfants. On a deux pôles principaux dans l'association qui sont donc le pôle hébergement. Donc on propose une mise à l'abri en sécurité pour les femmes qui veulent quitter leur domicile suite à des faits de violence. Et un pôle d'écoute, d'accueil et d'orientation pour écouter les femmes dans, via le contexte de violence.
Alors on en est où aujourd'hui? Est-ce que... Allez, je pose la question, ça va mieux?
C'est compliqué d'être optimiste et exhaustif quand on voit que nos chiffres d'année en année ne cessent d'augmenter, tant sur les mises à l'abri que sur les accompagnements en lien avec ce lieu d'écoute, d'accueil et d'orientation. Donc, on va rester un petit peu optimiste en disant que ça va mieux, non, mais que la parole se libère. Donc, on accompagne de plus en plus de femmes dans cette déconstruction et dans ce processus d'éloignement et de mise à distance des violences au sein du couple. Donc on va retenir ce côté optimiste où effectivement la parole se libère et on sensibilise et on accompagne un maximum de femmes, mais les chiffres traduisent une augmentation constante.
Vous avez, je crois, le nombre de féminicides?
Alors effectivement, on regardait ça avant de venir. Au 7 février 2024, on est à 16 féminicides en France.
On a un gros mois, quoi.
Camille, elle parlait tout à l'heure de notre association. Moi, je rajouterais qu'on est une association féministe et militante. Donc, au-delà de tout cet accompagnement social qu'on peut réaliser au quotidien, on mène aussi des temps forts en lien avec un positionnement militant et féministe pour s'écarter un petit peu de ce qu'on peut faire individuellement, mais de manière un peu plus collective, avec des présences sur les temps forts. J'ai en tête, par exemple, les manifestations du 25 novembre dernier, où ça a été très très fort pour notre association.
Et voilà, bientôt le 8 mars.
Oui. Voilà, c'est ça.
Donc, quelles sont vos actions un petit peu sur le terrain, localement, au niveau départemental peut-être aussi?
Au niveau départemental, donc, faut savoir qu'on est référent départemental en lien avec les violences faites aux femmes et en lien avec les violences au sein du couple. Donc on a cette petite casquette, enfin cette grande casquette même, qui nous permet d'intervenir sur tout le département et de manière vraiment adaptée et individualisée. Donc on a ce pôle hébergement qui permet les mises à l'abri, mais on a aussi d'autres petits dispositifs annexes. Enfin, j'ai tendance à dire petits, mais non. Des dispositifs annexes qui permettent d'aller vers ces femmes. Donc la conduite et la ligne rouge, notre ligne conductrice de 2024 sera vraiment la notion d'aller vers, où on va se déplacer et intervenir au maximum en ruralité et sur ces territoires où effectivement la parole peine à se libérer pour plusieurs questions et pour plusieurs facteurs bloquants, notamment la mobilité. Hein. Mais on va essayer d'aller vers avec notre équipe mobile qui se déplace.
Ça veut dire quoi, un camion? Enfin, je sais pas, ouais, j'imagine plein de choses, c'est ça?
On a un van. Ouais. On a un van qu'on a nommé Gisèle.
Voilà. C'est ravissant, ouais. Comme Alimi.
Exactement. Ouais. Et du coup, on l'a déjà sorti pour différentes actions au regard de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes le 25 novembre. Mais voilà, en tout cas, oui, on a un van à l'effigie de l'association.
Ouais. Et vous annoncez votre venue dans le village?
Alors, c'est un petit peu différent parce qu'on doit quand même rester discret parce que l'étiquette solidarité femmes peut mettre en difficulté certaines femmes, justement, qui voudraient se présenter. Mais on a deux versants, c'est-à-dire qu'on va... On va réaliser des actions de prévention, des actions de présence au niveau des mairies, etc. Un point itinérant d'écoute pour pouvoir recevoir la parole et potentiellement après s'adapter en fonction du public qu'on reçoit. Voilà, il y a des petites nuances qui sont à savoir, mais voilà, on est sur cette dynamique d'aller vers avec ce van qui nous permet de circuler sur tout le département.
Et est-ce que ces actions de prévention, justement, vous les développez aussi dans les écoles, dans... les collèges et lycées auprès du grand public?
Oui, alors toujours dans le cadre du 25 novembre, on avait fait des interventions déjà dans le milieu scolaire. Et là, pour le 8 mars, on a une intervention, je crois, dans un lycée à Segré.
Oui, dans le lycée Blaise Pascal. On a deux collègues qui vont intervenir auprès des élèves.
Et puis, régulièrement, on fait des interventions soit dans le milieu scolaire, mais aussi auprès des professionnels ou des futurs professionnels, soit dans les instituts de formation ou alors au sein des entreprises ou des autres associations pour parler aussi un peu de notre accompagnement. Parce que l'idée, c'est aussi que nous, on a une approche féministe, c'est-à-dire que au-delà d'accompagner les femmes dans leur démarche, on va aussi, notre but, c'est aussi de leur permettre de leur redonner le pouvoir, en fait, leur pouvoir d'agir en tant que femme, en tant que mère, mais aussi en tant que femme dans la société. Donc c'est de pouvoir les valoriser, leur dire que bah oui, en fait, elles ont une place dans cette société-là. Donc voilà, en gros, ça va être notre manière d'approcher et d'expliquer aussi cette approche-là aux professionnels.
C'est ça, parce que tout professionnel, en fait, les violences au sein du couple, ça concerne tout le monde, toutes les strates de la société. Et en tant que professionnel, peu importe le milieu dans lequel on évolue, on est plus ou moins, ou de manière plus ou moins indirecte, confronté à quelqu'un qui serait victime de violences au sein du couple. On dit qu'une femme sur 10 sera ou a été victime de violences au sein du couple. Donc, quand on est dans l'espace public, c'est intéressant de mettre en place cette statistique pour se rendre compte à quel point ça touche tout le monde. Donc, en intervenant aux côtés des professionnels, ça permet de déconstruire et de mieux appréhender cette problématique qui peut parfois être tabou ou complexe. Donc, en déconstruisant tout ça...
Alors, le temps passe vite. Hein. Je crois que vous êtes en train de développer un pôle enfant.
Oui, alors on a pour l'instant on a une collègue qui est présente et qu'il y en a une autre qui va arriver prochainement. Donc c'est des professionnels, deux professionnels qui vont intervenir auprès des enfants, parce qu'on parle beaucoup des femmes, mais on accompagne aussi les enfants qui sont témoins des violences conjugales, parce qu'il y a aussi un gros travail à faire. Il y a beaucoup de statistiques qui disent que sur l'ensemble des enfants, il y a un tiers qui vont être auteurs, un tiers qui vont être victimes et un tiers qui vont être dans la résilience et qui vont s'en sortir. Et du coup, il y a aussi tout ce travail-là de prévention à faire auprès des enfants.
Et malheureusement, ce dispositif enfance-parentalité ne concerne que les femmes hébergées parce qu'on manque de subventions aujourd'hui. Donc, on doit restreindre ce cadre d'intervention aux femmes hébergées. Mais toutes les femmes qui ne sont pas hébergées, qui ont des enfants, auraient énormément besoin aussi de cet accompagnement-là.
Alors là, vous parlez de subventions. Vous pouvez en dire un peu plus de vos moyens?
On est sur des financements publics, en fait. Donc, voilà, c'est notre action dépend des choix financiers publics. Donc, c'est l'État qui nous finance. Donc, voilà, il faut, on essaye, en fait, notre travail, c'est aussi de rendre un peu des comptes pour expliquer ce qu'on fait plus précisément, pour essayer de pouvoir avoir une enveloppe qui grossit d'année en année pour pouvoir développer nos projets, en fait, et pouvoir toujours accompagner au plus grand nombre.
Vous acceptez les dons aussi?
Oui, tout à fait. On peut accéder les dons matériels.
On fait en fait souvent des appels aux dons parce qu'on a tendance, alors c'est très bien et la générosité est incroyable, mais on a tendance à recevoir beaucoup de choses qui ne sont pas forcément adaptées. Donc on fait régulièrement des appels aux dons sur nos réseaux sociaux qui permettent d'adapter en fait ces dons-là pour les femmes concernées et d'éviter d'entasser aussi.
Ouais, comme des meubles ou des choses comme ça pour que les femmes qui puissent, quand elles sont relogées, puissent être aidées pour se meubler. Et puis il y a des adhésions qui sont possibles à l'association, plus des dons aussi financiers.
Et vous acceptez aussi les dons financiers de la part de mécènes également?
Oui, tout à l'association. Fait. Tout à fait.
Peut-être qu'il y en a qui nous écoutent aujourd'hui.
Et politiquement, vous avez senti quand même qu'il y avait eu un choix fort de la part du gouvernement pour favoriser la lutte contre les violences faites aux femmes?
Oui, alors oui, après c'est jamais assez, vu que nous on est sur le terrain, c'est jamais assez, puisque on aurait toujours envie de se développer, de développer d'autres actions, comme disait tout à l'heure Manon. On peut pas accompagner les enfants qui sont pas des enfants des femmes qui sont pas accompagnés. Donc on pourrait toujours faire plus, mais malheureusement aujourd'hui on fait avec les moyens qu'on a. Donc, oui.
Et comment alors est-ce qu'on peut vous contacter?
Alors on est joignable par téléphone, donc au 02 41 87 97 22, où on a une adresse mail.
Donc l'adresse mail c'est accueil@solidarité-femmes-49.fr. Et puis vous avez nos plateformes de réseaux sociaux qui ne sont pas encore idéal, mais le Instagram de l'association est quand même pas mal et est mis à jour régulièrement et on est en veille là-dessus. Donc n'hésitez pas à nous contacter, que vous soyez professionnel, victime, proche aidant, etc.
Merci beaucoup. On se retrouve après une pause musicale.
Sur le sol, je me fais du mal depuis des années. La main sur les yeux, pas envie de la retirer. Y a pas de place pour les faibles, y a pas de place pour les regrets. Cœur sur le sol, Enlève-toi, faut pas déconner. J'ai ces bruits dans ma tête et j'aimerais que ça cesse, mais en vain. J'ouvre un peu les yeux, des couleurs, des photos me reviennent. Tous ces bruits dans ma tête, faut que ça cesse. J'ai perdu la tête, où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. J'ai perdu la tête, où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, quoi qu'il advienne. Le regard des gens, j'en ai que faire. Qui sont-ils pour me juger? Un pardon à mon père. Insolente, je l'étais. Dans les yeux de mon frère. Ouais, des claques, ils sont ébouffés. Sur les joues de ma mère, des rivières se sont écoulées. J'ai ce bruit dans ma tête et j'aimerais que ça cesse, mais en vain. J'ouvre un peu les yeux, des colères, des photos me reviennent. Tous ces bruits dans ma tête, faut que ça cesse. J'ai perdu la tête. Chemin de ma maison. Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. J'ai perdu la tête, où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. Chemin de ma maison. Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. J'ai perdu la tête, ouais. Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison.
De retour dans Droit Devant sur Radio G 101.5 FM, vous venez d'écouter la voix chaude et émouvante d'Iseult qui a interprété Corps. Et nous allons maintenant écouter cette fois la chronique de Céline qui va nous parler de trois femmes arrivées en France sans abri.
Bonsoir Valérie. Pour continuer avec le thème fil rouge de l'émission, je voulais te parler des femmes. De celles qui partent au péril de tout. Au péril de leur vie, au péril de leur intégrité, au péril de leur dignité. Je voulais te raconter l'histoire de trois d'entre elles qui sont arrivées jusqu'à nous. Elles sont trois que nous connaissons, Thébert, Mimi et Sarah. Nous les avons rencontrées toutes les trois dans la rue parce qu'une fois arrivées, il leur a fallu affronter la rue et le sans-abrisme. Valérie, je pense que tu t'en souviens, mais quand nous avons commencé nos veilles au 115, les femmes étaient celles qui étaient mises à l'abri en dernier. Elles pouvaient espérer un lit vers 22h, parce que, nous avait-on expliqué, il n'y avait pas de place réservée pour elles. Et puis, un autre argument de la préfecture était de dire qu'une femme seule dans les rues d'Angers était susceptible d'être hébergée par des citoyens. C'est Thébert que nous avons rencontré la première. Thébert qui a bientôt 50 ans. Arrivée seule d'Érythrée, elle laisse au pays ses enfants pour leur permettre d'arriver plus tard dans des conditions meilleures et sécurisées pour être sûre qu'ils évitent les dangers de la route. Nous la connaissons depuis 7 ans. Ils viennent d'être réunis Les méandres et la longueur des démarches administratives n'ont pas permis que cela se fasse avant 7 ans. À eux maintenant de se redécouvrir et de s'inventer un avenir. Mimi, comme beaucoup, est partie d'Éthiopie avec son mari et ses enfants pour l'Érythrée, dans un premier temps. Mais les conditions redoutables les ont poussées plus loin. Et malheureusement, comme beaucoup aussi, les ont séparées sur la route. Elle terminera seule, jusqu'à Angers, avec le déchirement innommable de la perte de sa famille. C'est la persévérance d'un avocat qui ne lâchera rien, qui retrouvera la trace de ses 2 enfants. Depuis, Mimi, qui a obtenu des papiers rapidement et qui travaille dans les vignes, travail difficile que la taille et le soin qu'on apporte à la vigne, hiver comme été. Mais cela lui permet d'économiser chaque année pour rejoindre ses 2 filles 1 mois par an en Éthiopie. Et il y a Sarah, arrivée seule aussi d'Érythrée avec son fils. Sarah qui le mois prochain aura enfin un hébergement à elle. Elle l'attend depuis 4 ans. Sarah encore à l'hôtel et qui il y a 3 semaines s'est fait renverser en allant à l'école. Le conducteur a attendu qu'elle soit prise en charge par les pompiers mais n'a pas laissé son nom. Sarah qu'on a rapatriée plâtrée dans sa chambre d'hôtel sans se soucier de ses conditions de vie. Voilà, ce sont des petites tranches de vie. Petites tranches de vie si lourdes de ce que vivent les femmes qui partent en exil. Petites tranches de vie si pleines de leur courage et de leur puissance.
Voilà encore une magnifique chronique de Céline, toujours difficile de redémarrer après. C'est maintenant l'heure des actualités d'Amnesty International et des droits humains.
Le Parlement européen et les pays de l'Union européenne ont trouvé un accord mardi 6 février pour mieux lutter contre le mariage forcé, les mutilations génitales ou encore la divulgation d'images intimes. C'est une bonne nouvelle. Néanmoins, la question du viol n'a pas été couverte par cette directive. Et la France a fait partie des pays opposés à l'intégration de l'article 5, criminalisant le viol à l'échelle européenne par une définition basée sur le consentement. Pourtant, en Europe, 13 pays dont la Belgique, l'Espagne ou le Royaume-Uni ont déjà adopté une définition du viol selon le principe « seul un oui est un oui ».
Plus de 2 ans après le retour des talibans au pouvoir en Afghanistan, où en sont les droits des femmes dans le pays ? Les chercheurs d'Amnesty ont mené une enquête. Et le bilan est sombre. Les talibans mènent une véritable guerre contre les femmes et les filles. Cette campagne de persécution est organisée, généralisée et systématique. Elles sont bannies de la vie publique, empêchées d'accéder à l'éducation, visées par des interdictions de travailler ou de se déplacer librement. Celles qui résistent et qui dénoncent ces politiques sont emprisonnées, soumises à des disparitions, torturées. Cela pourrait constituer un crime contre l'humanité.
Elles sont d'origine iranienne, syrienne, tchétchène et elles sont réfugiées en France. De retour dans leur pays, ces personnes risquent le pire. Eh bien, sachez que la France procède à des expulsions et à des tentatives d'expulsion vers des pays à haut risque. Ce faisant, la France viole l'un des piliers du droit d'asile, ça s'appelle le principe de non-refoulement. Et on pense en particulier aux Iraniens et aux Iraniennes qui encourent des risques considérables en cas de refoulement vers leur pays d'origine. Et pourtant, en 2023, une femme iranienne s'est vue notifier une obligation de quitter le territoire par la préfecture de l'Aude et a été enfermée en centre de rétention pour être expulsée vers l'Iran.
Depuis près de 30 ans, la République démocratique du Congo est dans une situation de chaos total à cause du pillage des ressources congolaises, à savoir le gaz, le pétrole et le coltan. Ces pillages sont organisés par ces pays voisins comme l'Ouganda ou encore le Rwanda. Ils envoient des milices armées illégales qui s'introduisent au Congo pour terroriser la population, commettre des viols et des massacres de masse. La Croix-Rouge internationale dénonce le bilan le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale. On parle de 5 millions de morts et 6 millions de personnes déplacées.
En réaction aux modifications du code pénal malgache qui autorise désormais la castration chimique et chirurgicale en cas de viol sur mineur, Amnesty International dénonce l'application de cette condamnation qui constitue un traitement inhumain et dégradant et n'est pas compatible avec les dispositions constitutionnelles malgaches contre la torture et les mauvais traitements, ainsi qu'avec les normes régionales et internationales relatives aux droits humains.
Après avoir porté plainte contre le réalisateur Benoît Jacquot pour viol sur mineur, l'actrice Judy Godrèche a confié également avoir été victime d'abus de la part de Jacques Doyon sur le tournage du film La fille de 15 ans. Deux autres actrices, Anna Mouglalis et Islid Lebesco, ont également porté plainte contre lui. Alors évidemment, la justice fait son travail, mais tous ces témoignages peuvent contribuer à éclairer les mécanismes propres aux violences sexuelles et aider les victimes à déculpabiliser. Ça, c'est ce que nous disent les spécialistes des violences faites aux femmes et aux enfants. Et c'est maintenant le temps de la chronique de l'antenne des jeunes d'Amnesty Angers. Ils vont nous parler d'une sportive castère, c'est Ménia.
Devenir double championne olympique d'athlétisme et se retrouver dans l'impossibilité de concourir pour des problèmes liés à l'identité. C'est ce qui est arrivé à Castère Semenya. Ce nom ne vous dit peut-être rien. Pourtant, cette Sud-Africaine se retrouve aujourd'hui dans une bataille juridique à cause de son identité de genre. La cause, son hyperandrogynie. Ce terme peut-être un peu savant désigne en fait un taux trop élevé de testostérone dans le corps. Pour comprendre cette situation, remontons un peu en arrière. En 2009, alors âgée de 19 ans, Semenya s'adjuge le titre de championne du monde du 800 mètres à Berlin. Après la course en zone mixte, un journaliste lui pose une question quelque peu déplacée sur le fait d'une soi-disant naissance dans le corps d'un garçon. La réponse de la championne ne se fait pas attendre et réfute totalement cette hypothèse. Pourtant, en 2019, 10 ans après ces 2 titres olympiques et 3 titres mondiaux glanés sur la distance, la World Athletics, fédération qui régit en quelque sorte les lois de l'athlétisme, revient à la charge et lui interdit de concourir dans n'importe quelle compétition officielle à moins de se soumettre à un traitement hormonal pour faire baisser son taux de testostérone et donc être un peu égal avec les autres femmes qui concourent. L'année suivante, le tribunal arbitral se réunit en Suisse et affirme cette décision, et ce malgré un bras de fer entamé avec la justice par la sportive sud-africaine. Depuis cette annonce, silence radio, du moins sur la piste. Car en coulisses, la sportive ne cesse de clamer son innocence. En effet, son taux excessif de testostérone n'est dû qu'à une cause génétique. C'est d'ailleurs ce qu'appuie Castère Semenya. Dieu m'a créé comme je suis, je m'accepte et je suis fier. Ce sont les quelques mots qu'écrivait sur son compte Instagram en mai 2018 la championne. Aujourd'hui, rien n'a changé. Embourbée dans cette bataille juridique, elle se retrouve même sans moyen de payer des spécialistes pour prouver son innocence. Ce vendredi, elle lançait même un appel au financement pour abolir cette loi qui empêche également bon nombre d'athlètes de concourir. À maintenant 200 jours des Jeux Olympiques de Paris, c'est un véritable contre-la-montre que s'apprête à débuter Castère Semenya pour avoir la possibilité peut-être de défendre son titre en juillet.
Nous sommes toujours dans Droit Devant sur Radio G101.5 FM et c'est le temps de l'agenda militant et culturel.
Le 8 mars, journée des droits des femmes et des minorités de genre. On se retrouvera place du ralliement pour des concerts et des prises de parole. Horaire à venir.
Actuellement au cinéma Les 400 coups, allez voir Green Border de Agnieszka Holland, un film sur des migrants syriens ballottés aux portes de la Biélorussie.
Un autre film à voir, Ella A de Milena Aboyan. Ella A est une jeune fille kurde tiraillée entre le respect de ses traditions et son désir d'indépendance. Et puis notez tout de suite sur votre agenda la date du jeudi 21 mars à 20h au 400 coups toujours pour le film Prima Donna de Marta Savina, un film sur les droits des femmes et les violences faites aux femmes en Sicile.
Et enfin, 3 documentaires à voir sur Arte Replay. 2 sur les crimes de guerre commis par les Russes en Ukraine, comme les tortures systématiques et les raftes d'enfants. Et le 3e, La justice après la guerre au cœur de la Cour pénale internationale de La Haye, qui éclaire les raisons qui amènent juridiquement la Cour à donner suite ou non à des poursuites et des jugements de criminels de guerre.
Il est déjà presque 19h30, c'est le temps de conclure cette émission et de remercier Camille et Manon pour leur venue. Merci beaucoup. Et d'ici là, n'hésitez pas à réécouter cette émission en replay sur le site www.radio-g.fr et vous pouvez également nous rendre visite sur Facebook à amnesty.angers. Bonne soirée, à bientôt sur les ondes de Radio G.